Avant de commencer l'émission, on voulait vous dire qu'on sera dans la ville de Fontenay-sous-Bois samedi prochain. On fera une animation Métal Hurlant avec Jean-Pierre Dionnet, le créateur de la revue, et Johan Caveguet de Mundir. C'est celui qui avait gagné le prix BD C'est plus que de la SF de l'année dernière. On sera donc tous les trois à la médiathèque Louis Aragon à partir de 11h. Il y aura ensuite une dédicace avec Jean-Pierre, Johan et moi-même. Ensuite, je présenterai Dune partie 1 et partie 2 au cinéma Le Cosmo, toujours à Fontenay-sous-Bois. N'hésitez pas à venir nous saluer. Bonne émission à vous.
Écoutez, écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé et produit par L'œil de Chéri. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, 200 épisodes plus tard, notre premier parrain du podcast, Alain Damasio, revient chez nous. Il s'est passé pas mal de choses depuis, mais on est évidemment toujours heureux de le revoir. L'auteur des Furtifs, de la Horde du Contrevent, de la Zone du Dehors, a fait un petit passage express par la maison pour faire un podcast sur la vallée du Silicium, son premier essai publié aux éditions du Seuil. Alain Damasio, bienvenue dans C'est plus que de la SF.
Ouais, bienvenue, je suis content d'être le 200e après avoir été le premier.
Bah ouais, ça continue. Vous venez de publier un essai inclassable et truculent où vous découvrez, et je vous cite, la mec du Mac. Vous dissertez sur la voiture autonome, le métaverse, l'intelligence artificielle, le biopunk. On peut présenter ce texte aussi comme une synthèse de votre pensée autour du numérique et de la déshumanisation de la société. Vous nous questionnez face à notre technoservitude et vous montrez comment San Francisco et ses alentours se transforment en une douce dystopie. Alain Damasio, la Silicon Valley est-elle le laboratoire du futur?
C'est carrément le laboratoire du futur, ouais. C'est carrément même le laboratoire du présent, puisque tout ce qui sort de la Silicon Valley se retrouve immédiatement dans nos poches ou sous nos swipes, puisque voilà, toutes les applis, toutes les plateformes, tout ce qui est important au niveau numérique naît là-bas. Donc ils se vivent là-bas comme le centre du monde. Et moi, je dis, ils ont raison. Si tu considères le monde comme le monde quotidien, de ce qu'il y a sur ta table, dans ta poche, ce qu'il y a sur ta table de nuit quand tu te couches le soir et qui est toujours sur la table de nuit le matin quand tu te lèves, sur toutes les applis que tu utilises, comment tu dragues, comment tu joues, comment tu travailles, comment tu penses, comment tu te cultives, tout ça passe par la Silicon Valley, né à la Silicon Valley. Et tous les usages, voilà, sont toute notre anthropologie d'usage et de pratique. Naît de cette espèce de petite bande voilà, au sud de San Francisco. Donc c'est assez hallucinant que l'Empire américain, qui était en perte de vitesse, tu vois, sur l'industrie lourde, je me souviens à l'école de commerce, on apprenait ça, a réussi à complètement renaître comme un phénix de ses cendres grâce au numérique, quoi. Donc ils sont à nouveau les boss et comme ils le disent, c'est là que ça se passe, quoi. Quand ils vont là-bas parce que c'est là que ça se passe, quoi.
Vous avez été invité pour faire une résidence en Californie à la Villa Albertine de San Francisco, ce qui vous a poussé à écrire cet essai pour évoquer votre découverte de l'Amérique des années 2020. Vous aviez apporté quoi avec vous comme livre pour ce voyage? Car je me suis posé la question en lisant votre essai, parce que j'étais sûr que vous avez dû vous nourrir intellectuellement pendant ce séjour.
En fait, je suis venu avec un seul livre, en réalité, enfin un seul livre vraiment important. C'était le fameux Amérique de Baudrillard, qui est un petit opuscule qui doit faire 130 pages, qu'il avait écrit en 86. Il était parti en voiture se balader dans les grands espaces américains, la Death Valley, et il était dans la liquidité des freeways, comme il dit à circuler. Il fait quelque chose que je trouve magnifique, qui est pour moi la grande école nietzschéenne de la pensée, c'est-à-dire que tu penses le réel directement sans recourir à des références alternatives, sans mettre de notes de bas de page. Tu regardes le monde tel qu'il se déroule devant toi et t'essayes de le penser directement. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il fait. Et ce livre est magnifique parce que tu vois la pensée vibrante, vivante, en temps réel de quelqu'un qui a, bah, qui a des capacités intellectuelles et intuitives assez, assez prodigieuses sur, sur son époque et qui est complètement visionnaire même sur ce qui s'est passé 40 ans après. Donc je l'avais déjà lu quand j'étais parti. Moi j'étais parti aux, aux États-Unis faire aussi des grands parcs, mais pas en bagnole parce que je n'ai pas le permis. Donc j'étais parti à vélo, j'avais fait 1500 km dans Arches, dans Monument Valley, dans le Grand Canyon, etc. Et j'avais déjà ce bouquin-là. Et quand je suis reparti là, en avril 2022, j'ai repris et j'ai été scié parce que des fois, tu prends un livre, t'es un peu émerveillé parce que t'as 22 ans, parce que tu découvres la littérature, tu découvres la philo. Et puis tu relis, tu dis ouais, bon, ok. Mais là, non, là, c'était aussi bien, c'était même meilleur que la première fois.
Vous n'aimez pas Uber, Alain Damasio, et les voitures autonomes ne vous font pas rêver. Pourquoi ça vous fait pas rêver, Uber, les voitures autonomes, se déplacer n'importe où, n'importe quand, où on veut ?
Bah, déjà parce que c'est une pure aberration écologique. Tu vois, on est sur le même problème que pour Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon, ce qui transforme, c'est cette fameuse logistique du dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'au lieu que toi, tu descendes dans ta rue, aller chercher le livre ou la pizza, que tu fasses ce dernier kilomètre, ce qui évite un nombre de déplacements colossal. On outille la loi du moindre effort des grosses feignasses que nous sommes pour te l'amener chez toi dans des morceaux de carton et dans des emballages surnuméraires qui ont défoncé le marché du livre parce que il y a tellement maintenant de matières et de produits livrés sous emballage et sous carton que la pâte à papier devient à manquer et puis que vous payez les livres deux fois plus cher. Donc déjà, c'est une aberration à ce titre-là, c'est une aberration sur l'essence que ça évidemment consomme d'amener les produits chez les gens. Donc la voiture autonome, ça va être pareil, c'est-à-dire que ça va être utilisé pour aller faire tes courses, ça va être utilisé pour t'amener au restaurant, au café, pour te ramener. Et pendant ce temps-là, la voiture, bah, elle ne sera pas là à t'attendre, elle va aller se garer en périphérie, donc ça va générer énormément de... Et après, c'est des voitures qui sont extrêmement coûteuses en termes d'électronique, donc en termes de batterie, en termes de terres rares, en termes d'extraction minière, en termes de travail des enfants. Il y a une quinzaine de capteurs, il y a des lidars, il y a des caméras, enfin, c'est quand même un appareillage technologique monstrueux, une voiture autonome. Donc c'est très très aberrant par rapport tout simplement au transport en commun, par rapport aux mobilités douces type vélo, type marche, type même skate, etc. Donc c'est typiquement le prototype de la mauvaise idée, quoi, qui continue à maintenir vivante l'industrie automobile qui devrait depuis longtemps avoir touché en tout cas le stade de la sobriété, quoi, et encore plus en ville où normalement il devrait plus y avoir que du transport en commun ou du transport doux, quoi. Donc voilà, typiquement la mauvaise idée de l'industrie, quoi, mais qui va avoir un marché, bien sûr, qui va être rentable et qui va concerner en plus que les riches, qu'il n'y a que les riches qui pourront se payer ces voitures-là autonomes, quoi, tu vois, pour se balader, pour se trimballer même.
Alors, ce qui est intéressant, hein, quand on lit cet essai, c'est un peu Alain Damasio, Ghost to Hollywood, entre guillemets, hein, on vous suit dans vos péripéties, vous rencontrez des spécialistes, vous rencontrez des gens très différents, des profils assez variés. Et vous analysez, vous commentez, vous racontez aussi des anecdotes. Il y a une séquence assez amusante où vous racontez votre arrivée aux USA et la fameuse société de contrôle qui se met en place. Vous êtes fiché de partout juste pour entrer dans un pays. Je vais reprendre une phrase d'une des personnes que vous citez dans votre essai. Il faudrait supprimer les frontières. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Alain Damasio ?
Bien sûr. Moi, on oublie à quel point il y a eu évidemment une immense période de l'histoire humaine où il n'y avait strictement aucune frontière. C'est une invention assez récente, c'est une invention de la modernité. Même le passeport n'existait pas, je crois qu'il commence à apparaître en 1910-1920 dans la plupart des pays du monde. Donc ce n'était pas du tout quelque chose d'obligatoire. Ce qui est dur, c'est de penser hors du présent, c'est de penser hors de son monde, quoi. Quand on dit le capitalisme, c'est très difficile d'imaginer sa fin, plus difficile que d'imaginer la fin du monde ou d'imaginer un monde sans frontières et sans passeport. Les gens, ils vous regardent comme ça, ils disent « mais attends, la sécurité, machin, so what ?» quoi. En réalité, on pourrait très bien, et on vivrait certainement infiniment mieux, sans frontières. Moi, j'avais été sidéré, on était post-Covid, hein, 2022, il fallait passer une frontière juste entre la France et les États-Unis, deux pays censément libres, et deux pays en temps de paix, on est d'accord, et on est arrivé avec un classeur de 30 pages, quoi. Il y avait un nombre de documents demandés qui était absolument hallucinant. Et tu passes tout un ensemble de contrôles très physiques, très de sas, de filtres, et tu arrives aux États-Unis, tu te dis, bon, allez, ça y est, j'y suis. Et là, tu arrives à la frontière américaine. Donc, tu veux sortir de San Francisco. Et on te demande l'empreinte des quatre doigts, main droite, quatre doigts, main gauche, puis du pouce, main droite, puis du pouce, main droite. Puis, ça ne suffit pas. Donc, la biométrie, le visage, il ne faut pas sourire, parce que si tu souris, tu déformes ton visage et on ne va pas pouvoir te tracer, etc. Et tu vois cette espèce de généralisation, d'évidence maintenant, du contrôle dans nos vies, et à quel point on s'y soumet, à quel point on a une espèce de consentement à tout ça. Voilà, c'est... Et tu te dis, qu'est-ce que ça traduit ? Alors les gens disent, ouais, mais c'est la sécurité, c'est le terrorisme, etc. Comme si les époques précédentes, comme si le 19e siècle, le 18e, le Moyen-Âge, étaient des époques non violentes, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est absolument pas dans une société plus violente qu'avant. Tous les sociologues le disent, c'est même beaucoup moins violent. Il y a moins de guerres, même, qu'avant. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a l'Ukraine, il y a Gaza, bien sûr. Mais depuis, en gros, les années 45, si tu regardes la moyenne des guerres annuelles, elle a quand même singulièrement réduit. Les violences dans les rues ont singulièrement réduit, tous les sociologues de la violence te le montrent, et malgré ça, le sentiment de violence, la perception de la violence, l'espèce de sentiment d'insécurité n'a pas arrêté de grandir. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est-à-dire se dire, le technococon est devenu tellement épais, tellement rond, consolant, choyant, que la moindre intrusion, le moindre hasard, la moindre imprévisibilité, le moindre déplacement est considéré comme une menace potentielle. On est juste devenu intolérant à toute forme d'altérité, à toute forme d'intrusion et encore une fois d'inattendu, d'imprévisibilité. C'est un peu la tragédie pour moi de cette époque moderne qui est enveloppée dans des couches très profondes de confort et de molleton, quoi. Donc c'est ça aussi que je critique ou j'essaie de montrer. Et puis ce côté où on est moins dans le sécuritaire maintenant, je trouve qu'on est passé une étape encore plus. Avant, j'ai l'impression que on est allé chercher une sérénité, puis après le sécuritaire. Et maintenant, on est dans l'immunitaire. Moi, ce que j'appelle l'immunitaire, j'avais fait un article qui s'appelait Immunité partout, humanité nulle part, quoi, à la suite du Covid, justement. C'est-à-dire qu'on considère que le corps de l'autre, la présence de l'autre, est potentiellement un virus, un danger, va nous contaminer et contagier, donc va contaminer notre culture. Tu vois, le fameux grand remplacement, c'est aussi de dire attention, c'est notre identité qui va être altérée. C'est même pas que d'autres gens viennent, c'est que. T'es contaminé dans ton identité, tu peux pas rester le même, tu vois, tu es obligé de manger du kebab, du couscous, tu vois, il y a un côté comme ça. Et cette logique immunitaire, elle devient très féroce, quoi. Voilà, moi si je fais une parenthèse politique, parce que pour moi c'est très important, c'est tous ces enjeux-là, mais tu vois, la réaction de Tzal, donc de l'armée israélienne, à l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui est une réaction totalement disproportionnée, excessive, ils font 30 fois plus de morts que ce que la masse a fait en Israël. C'est pas une réaction militaire, c'est même pas une réaction sécuritaire, c'est une réaction immunitaire. Ils réagissent comme si des cafards étaient rentrés dans la maison, quoi. Ils réagissent comme si des rats avaient pénétré et que malgré toute la mort aux rats qu'ils ont mis, malgré tous les anti-cafards qu'ils ont mis, les rats peuvent encore pénétrer chez nous, quoi, malgré le dôme de fer, malgré les murs qu'on a fait, malgré les checkpoints, machin, tu vois. Et la réaction, c'est une réaction d'immunité panique, quoi. C'est une réaction d'une violence absurde, inadmissible, scandaleuse, mais qui est liée à un sentiment immunitaire. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir qu'on a dévié du sécuritaire vers l'immunitaire.
Vous parlez de Gaza. On va se retrouver à l'Anamasio, à la Comédie du Livre, à Montpellier. Et vous avez une carte blanche et il y aura un concert. Et vous avez décidé d'inviter Karim Khatan, romancier et poète palestinien. Vous rappelez aussi dans votre essai votre soutien au peuple palestinien. Vous êtes d'ailleurs un des rares auteurs de science-fiction francophone à avoir pris position, à être critique face à ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza. Pour vous, c'est important de rappeler votre engagement vis-à-vis de...
C'est extrêmement important et je trouve que j'en ai pas assez fait même, parce que c'est très compliqué de se positionner quand t'es juste auteur de SF, t'es pas forcément la légitimité pour intervenir sur des enjeux géopolitiques. Mais moi, j'ai été absolument sidéré, mais c'est vraiment le terme sidéré, de la couverture médiatique française sur ce conflit-là. C'est la position très pro-israélienne qu'ont pris les médias français, la quasi-totalité des médias français, en accordant cette espèce de soutien inconditionnel à Israël, en tout cas dans tous les premiers mois. Après, ça a un peu modifié, là il y a quand même un peu plus d'ouverture, parce que le massacre est tellement évident et tellement scandaleux. Là, on aurait été à 15 000 enfants totalement innocents, évidemment, assassinés sous les bombes de Tzal. Donc à un moment donné, t'es bien obligé quand même de réagir, ça se passe sous tes yeux. Les intentions génocidaires sont quand même assez claires. Même la Cour internationale de justice, qui est plutôt pro-américaine, a été obligée de pointer ça et de mettre en danger. Donc c'est important de faire notre boulot là-dessus et d'essayer d'avoir le maximum d'objectivité sur ce qui se passe et de dire que bah, s'il y a 1000 morts d'un côté mais que vous en faites 35 000 de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi.
Et pourtant, le choc du 7 octobre a été vraiment présent.
Parce il était présent et il est compréhensible, tu vois. Mais il est compréhensible aussi à cause du sentiment d'immunité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Israël s'est dit, ça y est, on a résolu le problème. On va plus être attaqué, on a réussi à tout. Il y a quand même, il faut savoir, il y a ce mur hein, évidemment qui sépare Israël de la Cisjordanie, qui à terme fera 700 km, qui est une sorte de mur de Berlin hallucinant, avec des routes qui séparent. Il y a le Dôme de Fer qui est capable, on l'a vu là sur l'Iran, ils ont absolument éliminé toute incursion, qui montre la puissance de protection que possède Israël, soutenue par les Américains. Et je pense qu'ils étaient arrivés à ce stade en disant, ben, on colonise impunément depuis maintenant 30 ans la Cisjordanie. On est passé, il faut savoir hein, quand même, de, je crois en 72, il y avait 10 000 colons en Cisjordanie. Il y en a 700 000 aujourd'hui. Donc, il y a une colonisation croissante, extrêmement intense, extrêmement et sous le silence de la communauté internationale, quasi complet. Donc, à un moment donné, ça réagit, oui. Et eux, ils pensaient que ce serait plus possible qu'ils réagissent. Quoi. Donc, effectivement, c'est un acte de guerre, c'est un acte terroriste. Ils ont joué la carte terroriste. Ils ont même rendu spectaculaire l'acte terroriste. Et il faut le qualifier comme ça. Même si moi, je ne qualifie pas le mouvement du Hamas dans sa totalité comme terroriste, parce qu'il y a un Hamas politique et un Hamas, effectivement, militaire qui a fait cette action politique. Mais l'action, elle est clairement terroriste. Et il n'y a aucun problème à qualifier ça. Et tu comprends la réaction, bien sûr, israélienne. Tu comprends le choc. Tu comprends le rapport à la Shoah. Mais après, c'est dans la réaction, dans la riposte. C'est-à-dire que tu riposterais un pour un en disant bah, ils ont fait 1000 morts, on leur fait 1000 morts. Tu dirais bon, ok, c'est loi du talion, il pourrait y d'un pour dents. Quand tu ripostes à fois 30, tu fais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, une vie israélienne vaut 30 vies arabes. C'est quoi le délire derrière, tu vois? Donc, c'est des choses très simples qu'il faut mettre en place. Mais notre boulot en tant qu'écrivain, en tant que personne disposant aussi d'une certaine audience, c'est aussi de dire ben, voilà, nous, on ne cautionne pas ça. Et ce n'est pas normal que les médias français cautionnent ça. Tu vois, voilà.
En tout cas, ce qui est une nouvelle fois tragique, c'est qu'à chaque fois. Dans ce conflit éternel, dans cette finalement guerre éternelle, pour faire écho à un roman célèbre de science-fiction, c'est qu'à chaque fois, ce sont les civils, que ce soit israéliens ou gazaouis, qui subissent, c'est des femmes et des enfants.
Ah, qui subissent, ils n'ont rien demandé. Tu vois, tu es à Gaza, tu n'as rien demandé. Enfin, voilà, t'es enfant à Gaza, c'est une punition multipliée par X, quoi, qui est complètement moi, folle. Donc, voilà, mais tu vois, tu te dis, t'es auteur de science-fiction, ça t'intéresse aussi sur les logiques derrière. C'est pour ça que, tu vois, quand on passe nos petites frontières, nous, de bobos français allant aux États-Unis, on subit ces contrôles des corps, etc. On se dit, bon, ça nous agace parce qu'on est des bobos et machin. Et en fait, tu te dis, les logiques sécuritaires et immunitaires qu'il y a derrière, c'est les mêmes que tu vas retrouver, évidemment, infiniment plus intensément dans d'autres zones, par exemple, entre la frontière entre le Mexique et les États-Unis, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir les signaux faibles d'une logique qui va être hypertrophié ailleurs. Voilà. Et nos boulots d'écrivain, c'est de voir ça aussi et d'être attentif à ça. Voilà.
On fera de toute façon, nous, un podcast sur la cybersécurité, puisque ce conflit israélo-palestinien, en termes d'IA, en termes de cybersécurité, il y a des choses très intéressantes.
Puisque les cibles sont données par l'IA qui s'appelle Évangile, d'ailleurs, c'est ce qui est fou. Quoi. Le terme est assez dingue à ce moment-là. Et ils choisissent les cibles avec l'IA. Donc, ils utilisent. Il y a pour déterminer le pourcentage de victimes civiles qui tolèrent quand ils font une frappe, quoi, ce qui est assez ignoble et cynique.
D'ailleurs, quand on avait fait notre premier podcast il y a maintenant 4 ans, il n'y avait pas encore cette révolution de l'IA. Elle est arrivée à peu près il y a 2 ans, Midjourney, ChatGPT, hein, maintenant ce sont des mots qui sont bien connus des internautes français. Comment vous expliquez cette révolution des IA? On pensait plutôt dans le fantasme de la science-fiction, plutôt la révolution des machines à la Terminator. Finalement, c'est un peu moins glamour et violent, c'est plutôt la révolution de la copie, entre guillemets, avec Midjourney.
Ouais, mais j'adore parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'effectivement, en réalité, et tu vois, je me dis toujours, Serge Lehmann a quand même été extraordinaire dans sa perception de la spécificité de l'ASF, c'est de dire. On réalise la métaphore, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est, on a une métaphore, mais on va la rendre réelle, on la descend dans le réel, on la cristallise dans le réel. Lui, il dit réifier, mais moi, je dis réaliser, parce que c'est réaliser même la métaphore. Et en fait, quand tu réalises la métaphore de l'étrangeté ou d'une intelligence qui serait équivalente à l'espèce humaine ou supérieure, on avait besoin de la réifier dans un organisme androïde, quoi, dans un cyborg, dans un organisme qui ressemble à l'être humain, tu vois. Et le robot, ben, on le représente toujours comme une espèce de bipède avec des bras et machin, même si c'est des robots animaux, à la rigueur zoomorphes, mais en réalité, on incarnait, on réifiait la métaphore dans un robot. Et voilà, et ça donne le cycle des robots, ça donne des textes qui sont fabuleux et tout. Mais en réalité, c'est beaucoup plus évanescent que ça, c'est beaucoup moins spectaculaire que ça, puisque c'est des algorithmes, c'est quelque chose de quasiment immatériel qui est dans les circuits imprimés et qui change nos vies. Et c'est ça qui change nos vies. Et qui va s'incarner certainement dans l'IA personnalisée, qui va un peu comme dans Heure de Spike Jonze, quoi. C'est-à-dire une IA qui va être notre interlocutrice quotidienne, permanente. Et ça sera juste une machine de langage, en fait, surpuissante, capable de malaxer et de remixer la totalité des productions humaines depuis que le monde numérique existe, quoi. Et c'est avec elle qu'on va discuter, quoi, comme une espèce de... Moi, des fois, je pense, c'est marrant, je pense à la bibliothèque de Babel de Borges, en disant c'est une bibliothèque de Babel, mais avec la capacité algorithmique à la remixer en permanence et à t'amener l'information dont tu as besoin et l'échange dont tu as besoin à tout moment. Donc, c'était pas... Nous, auteurs d'SF, on n'avait pas vu ça, ou plutôt, c'était que la réification n'était pas assez spectaculaire pour nous, quoi. Donc, on arrive à quelque chose, c'est comme le smartphone. Qui aurait posé le smartphone comme quelque chose de spectaculaire dans un récit de SF à l'époque, c'est bien mieux de faire des robots ou des super machines. Donc, ouais, c'est marrant d'être débordé par... Et effectivement, le problème, c'est plus la copie que de... tu vois.
Je vais vous citer, vous parlez, il y a tout un chapitre où vous parlez du métaverse. Je vous lis. Tout se passe comme si plus notre société devenait liquide et moléculaire et pulvérulente et brownienne dans son agitation dispersive, plus l'individu occidental ne pouvait s'y tenir debout et entier qu'en activant continuellement des processus de renforcement identitaire, donc d'auto-réplication ou d'autocopie numérique de soi. Aucune fête ne tient aujourd'hui sans filmer la fête, aucun voyage sans les images postées du voyage, aucune existence sans l'archivage systématique de cette existence sur la mémoire méticuleuse du smartphone. En musique, on appellerait ça une loupe, une deleuzienne, dirait sans doute, une reterritorialisation identitaire. La question que je voulais vous poser sur ça, Alain, et ça fait le lien évidemment avec ce qu'on vient de dire, avec le smartphone, c'est qu'on est plutôt dans une époque un peu pré-cyberpunk. On n'est pas dans le cyberpunk, mais on a l'impression qu'on est un peu avant le cyberpunk.
Ah ouais, tu trouves ? Moi, je trouve qu'on est à une époque presque post-cyberpunk, quoi. C'est-à-dire que pour moi, on a abouti le cyberpunk, sauf qu'on n'a pas greffé, évidemment, les 5 cm par 10 du smartphone dans nos bras. Mais sinon, l'espèce de contiguïté, de permanence du rapport au smartphone, le fait que c'est un objet extrêmement intime, qui est toujours près du corps, qui est toujours... voilà, on se couche, il est sur la table de nuit, on se lève, il est sur la table de nuit et on l'a toute la journée avec nous. Donc ça veut dire que notre couplage à la technologie est devenu extrêmement intense et donc pour moi on a touché le cyberpunk avec tous les effets torturés et négatifs ou en tout cas pervertis du cyberpunk qui était là dès le début parce qu'il posait la promesse d'émancipation par la technologie dans le cyberpunk. Je pense que l'économie de désir... D'ailleurs, cyberpunk, elle nous a touchés tous parce que c'était la fascination de se dire l'expérience technologique, l'accroissement technologique, le rapport avec la technologie, les expériences que ça va nous donner vont nous agrandir, vont nous nourrir, vont nous alimenter, vont faire de nous des êtres humains plus riches, plus grands, plus vastes. Donc cette promesse-là, elle a été portée, mais d'emblée, les auteurs de SF, c'est là qu'ils ont été très forts aussi, c'est que d'emblée, ils ont senti que ce couplage avec le capitalisme, ce couplage avec les corporations, les abus, les addictions, la drogue, ça allait constituer les perversions aussi psychologiques que ça induisait. Tout ça était présent dès le départ, quoi. Mais je trouve qu'on est arrivé au point où le cyberpunk est accompli, en quelque sorte. D'où l'idée, moi, que je défends qu'il est temps de passer à autre chose. En tout cas, il est temps de travailler autrement. Mais tu vois, je reviens à la citation que tu as pointé, qui est pour moi un moment très important du livre en réalité. C'est une inspiration de Baudrillard au départ, et Baudrillard appelle ça le stade vidéo. Il voit quelque chose, et c'est là que je trouve le génie aussi des philosophes à des moments. Il voit quelque chose sans forcément le développer, c'est-à-dire qu'il voit que les gens s'autofilment en permanence, que déjà à l'époque en 86, quoi, et que s'il n'y a pas ce branchement constamment sur toi-même, tu as l'impression que les choses n'existent pas. Et tu vois, je relis cette citation, ça fait partie des chocs de Amérique, et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ce truc-là, quoi. Et c'est là que je suis parti en me disant, mais effectivement, on est dans un monde qu'on appelle liquide, société liquide, c'est-à-dire que chacun de nous essaie dans son petit coin de faire ses pages, d'être youtubeur, d'être publié, de trouver un travail, d'être auto-entrepreneur de soi, etc. On est tous dans une compétition brownienne comme ça, et encore plus dans la Silicon Valley. Et, Et du coup, on appartient à plein de communautés différentes. On est fractalisé dans énormément d'applis différentes. On a des avatars partout. On échange à la fois sur WhatsApp, sur Insta, sur Facebook. Puis après, on fait un tweet. Puis après, on revient sur Snapchat. Et puis après, on revient sur TikTok, etc. Donc, on a cette dispersion que autorise le numérique. Et plus tu es dispersé, moins tu es lié, parce que ce système attaque les liens. Moi, c'est ce que je dis, en tout cas, attaque les liens humains. Plus le sentiment de ta propre existence devient évanescent, un peu flou, un peu discutable. Et donc, tu as besoin de cette boucle machinique pour te renforcer ton identité, pour assurer, pour te faire assurer à toi-même que tu existes bien. Donc, tu fais une fête, il y a un tout début d'intensité, un tout début de truc qui se passe, vis ton film pour bien essayer d'ancrer la mémoire de cette fête et de dire ça existait, c'était important puisque je l'ai filmé, ça existait, c'est important puisque je... Et les selfies, comme dit Baudrillard, c'est pas un problème du tout, le narcissisme, le selfie. La plupart des gens, ils se trouvent moches, la plupart des gens, ils se trouvent pas assez beaux par rapport à toutes les images que leur véhicule. Tu fais un selfie pour essayer d'ancrer ton identité, pour territorialiser ton identité, pour te dire j'existe, quoi, tu vois. Et ce mouvement-là, je trouve que c'est un mouvement extrêmement important dans l'époque, quoi, et qui explique la sporulation aussi des actes de mémorisation, d'archivage, de stockage, de la moindre photo, de la moindre vidéo de ce que tu fais, du moindre message que tu as, de la moindre histoire d'amour que tu as fait, tu vois. Et moins on a confiance dans la certitude de notre existence, plus on va enregistrer l'existence, plus on va produire. Et je trouve que c'est vraiment un symptôme de l'époque qui est hyper intéressant. Et là, l'inspiration de Baudrillard, elle est folle, quoi. Ouais.
Si les auditeurs ne l'avaient pas compris, votre essai est clairement technocritique. Est-ce que vous n'avez pas des fois l'impression, là, Damasio, d'être un peu ce vieux boomer gauchiste qui n'aime pas la technologie Je dis ça en rigolant, mais...
Oui, ouais, bien sûr, c'est l'image que ça peut donner. Moi, je suis parti aux États-Unis pour sortir de ça, parce que, évidemment, la Silicon Valley, je la voyais de la France, je voyais de mes grands penseurs, effectivement, gauchistes, si on veut rigoler, mais qui sont tout simplement des grands penseurs. C'est-à-dire les Foucault, les Deleuze, etc. Et les Illich aussi. Et en fait, je suis vraiment parti dans cette idée de penser contre moi-même, quoi, tu vois. Et penser contre soi-même, c'est souvent penser à côté de soi-même, ou penser en oblique à soi-même, ou penser sous soi-même, tu vois, t'as une topographie différente, t'abordes les choses différemment. Et je suis arrivé, j'ai pas parlé, tous les gens avec qui j'ai rencontré, je me suis mis en position presse journalistique, c'est-à-dire d'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui peut être très bavard, tu le sais. Et là, je me suis mis en position où j'étais comme si je glissais dans mes personnages et j'étais avec eux. Et j'étais avec l'enthousiasme de la Silicon Valley, j'étais avec l'enthousiasme des start-upers, j'étais avec cette sensation qu'ils ont, qui est très pétillante, d'être là où ça se passe, au centre du monde. Et c'était passionnant de voir tous ces gens qui sont des gens extrêmement péchus, énergiques et passionnants et souvent très intelligents. Et je suis rentré dans ce monde-là. Et j'ai pris plaisir vraiment à être sur la vague avec eux. Et je voulais voir jusqu'à quel point, tu vois, ça me poussait à penser différemment. Et j'ai vraiment eu des moments, des épiphanies, des révélations. Et j'ai vraiment posé la question, et je le fais dans une chronique vraiment spécifiquement, en disant qu'est-ce que ça serait une technologie vraiment positivement vécue, une technologie vraiment positive, riche, féconde et qui nous apporte. Et j'essaie de travailler beaucoup là-dessus. Moi, quand les gens parlent de technophobie, pour moi, c'est totalement aberrant, puisqu'on est une espèce technique. L'être humain se définit par son rapport à la technologie. Donc, on ne peut pas être technophobe. Ou alors, tu dis, je suis misanthrope, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai, comme tout auteur d'SF, une immense fascination pour la techno, pour toutes les avancées techno. Là, je discute beaucoup avec un pote qui est sur les IA, qui fait une start-up sur les IA. Et je suis fasciné à la fois par ce qui arrive et peut-être la tragédie humaniste que ça va produire. Mais il y a une vraie fascination, il y a une vraie envie, quoi. Donc j'ai l'impression d'être à la vitesse de ce qui se passe, quoi, en tout cas, et d'être sur la lèvre de l'écume, quoi, tu vois, c'est-à-dire d'entrer avec la planche là où le tube se forme. Mais je veux pas, si tu veux, céder à la technophilie ambiante qui est juste une technophilie commerciale, tu vois. J'ai envie d'avoir une vraie technocritique au sens où on parle de la critique de la raison pure, c'est-à-dire une analyse très précise de ce que ça apporte, de ce que ça enlève, de ce que ça appauvrit, de ce que ça enrichit, de ce que ça ouvre et de ce que ça ferme. Et c'est très complexe. Genre, l'IA aujourd'hui, analyser l'IA et son impact, il ne s'agit pas de dire « Oh là là, ça va nous prendre nos métiers ». Oui, ça va nous prendre nos métiers et beaucoup des métiers du tertiaire. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça émancipe? Qu'est-ce que ça peut libérer? Qu'est-ce que ça ouvre? Et parallèlement, pas être naïf et se dire « Attention, qu'est-ce que ça va aliéner? Quelle addiction ça va créer? Quelle auto-addiction? En quoi ça va outiller des paresses qui vont être dangereuses ?» En quoi ça va encore alimenter cette économie de désir liée au pouvoir? Ça nous donne du pouvoir. Comment ce pouvoir est utilisé? On voit l'extrême droite aujourd'hui qui s'empare énormément des bots, des deepfakes, etc. Et tu vois qu'immédiatement, ils voient l'intérêt en termes de manipulation et de pouvoir dessus. Il ne faut pas être naïf, quoi, et se dire « Waouh, c'est super, l'IA, elle écrit mieux que moi. » Bah oui, mais quel monde ça construit, voilà. Donc moi j'ai plus un, et ce bouquin c'est un bouquin d'anthropologie en réalité pour moi, c'est-à-dire que c'est plus qu'est-ce que ça fait à l'homme, voilà, qu'est-ce que ça fait à l'homme.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la passion qu'il y avait pour la science au 19e siècle, début 20e, a été d'une certaine façon remplacée par une forme de passion pour la technologie, puisqu'on a vraiment des gens qui sont addicts à la technologie,
ouais, qui la suivent et qui ont une... Mais parce que ce qui est génial, c'est que c'est empoignable, c'est que c'est incarné, c'est que la science, globalement, quand t'es pas voilà, mathématicien, physicien, biologiste et tout, c'est compliqué de l'assimiler, tu vois, t'es pas astronome. Quand la technologie, elle vient à toi, quand elle est utilisable, manipulable, quand elle augmente ta vie, quand elle permet de te repérer dans une ville immédiatement avec un GPS, quand elle permet de traduire immédiatement un texte anglais, japonais en 2 secondes, c'est fascinant, quoi. Tu vois, c'est génial. Tu rentres dans une culture immédiatement, ce que tu pouvais pas faire avant. Ça, c'est une vraie émancipation, c'est une vraie trouée, c'est une vraie ouverture. L'accès à toutes les musiques du monde, à toutes les mangas. T'as des sites où tu peux accéder à tous les mangas. Enfin, c'est fabuleux. Tu vois, il y a cette ouverture, elle est. Mais après, toujours se poser la question, comme je le fais, pouvoir-puissance, c'est-à-dire ça te donne du pouvoir, mais quelle puissance personnelle ça t'enlève ou ça t'édulcore. Il faut toujours être conscient de cette finesse. Mais c'est un enjeu difficile, ouais, c'est un enjeu difficile. Mais c'est vrai que l'enthousiasme aujourd'hui vient que la science est devenue techno et la techno est quelque chose d'appropriable pour les gens, quoi.
Vous avez rencontré Arnaud Auger, ou Arnaud Auger, si on le dit à l'américaine. Pourquoi cette rencontre a été déterminante, lui que vous surnommez le gitan du futur dans l'essai?
Ouais, il est incroyable parce qu'il a vécu dans 17 pays différents à 30 ans. Il a été en Inde, il a été dans plein d'endroits. Ce qui était fabuleux, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un personnage des furtifs, un citoyen des furtifs, descendre dans la réalité, qu'il était déjà là, que je ne l'avais pas vu, quoi. Sauf qu'on était en 2022, donc 20 ans avant les furtifs, et qu'il avait déjà. Il a déjà au quotidien, ses lunettes évidemment connectées avec les caméras à l'angle de la lunette. Il plie les paupières et il prend une photo. Il a par conduction osseuse sur les branches. Il écoute ses podcasts, sa musique quand il court. Il avait la bague, la fameuse bague des furtifs. Il l'avait sur lui avec tous les capteurs. Il avait l'Apple Watch. Maintenant, il a le bracelet électronique, etc. C'est-à-dire qu'il a tout le monitoring de ce qu'on appelle les quantify self, ceux qui quantifient leurs signaux vitaux, et ce gars-là, il le vivait et il le vit avec une totale plaisir, joie et sans anxiété. C'est pas du tout quelqu'un qui est hypochondriaque, c'est pas du tout quelqu'un de stressé, c'est quelqu'un qui est rentré et s'approprie la technologie comme un accroissement intéressant et intelligent lui-même. Et ça, ça m'a beaucoup secoué parce que j'avais toujours l'impression un peu que ces geeks-là étaient des psychotiques et c'était pas du tout le cas, quoi. Et surtout, j'ai eu le sentiment que ma façon de vivre mon corps, la façon dont je croyais que les corps étaient vécus, était quelque chose d'un peu universel, intemporel, et que c'était vraiment en train de changer. C'est-à-dire que le sapiens qu'on est corporellement a été en train de muter. Et ça m'a beaucoup bouleversé, ouais, en réalité. Et c'est pour ça que j'ai fait cette longue chronique qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Où je joue avec des jeux de mots autour du corps, mais que je trouve assez justifié de dire on a un corps premier, on a un décor qui est un corps désinvesti, et toujours le décor évidemment CORPS, et puis on a un raccord technologique CORPS toujours qui nous ramène ce corps par le monitoring, par la quantification, et derrière il y aurait comme un quatrième corps, et là je fais un hommage à Liu Cixin en appelant ça le problème à 4 corps, c'est qu'il y a un quatrième corps qui est ce corps un peu intouchable dont on parle dans l'art, qui est ce corps inconscient. C'est le corps qui nous rend amoureux, c'est le corps qui nous rend fou, c'est le corps qui nous fait faire des actes manqués. Et ce corps, il est extrêmement important. Il a des très vieilles technologies, je pense au shiatsu, au yoga, aux arts martiaux, etc., qui sont là pour nous faire accéder à ce corps-là et trouver l'accord entre le corps premier et ce corps. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de dire, cette société de la Silicon Valley, elle est sur le corps machine, elle est sur le raccord technologique avec ce corps machine. Elle sent bien que le corps est désinvesti, désaffecté, ils appellent ça mythe, la viande, la Silicon Valley, qui est un mot terrible pour dire le corps, mais parce que c'est le corps avachi sur une chaise, c'est le corps sur le sofa, c'est le corps climatisé. Et que ce corps étant tellement désinvesti, on est obligé de faire beaucoup de fitness, beaucoup de courses, beaucoup d'ultra-trail pour se dire il est vivant, tu vois, c'est une déclaration d'existence du corps si tu le fatigues. Mais aussi qu'on va le monitorer pour savoir son temps de sommeil, pour savoir sa note de sommeil, pour savoir où on en est en termes de glycémie, pour savoir, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce bricolage technologique pour essayer de retrouver ce corps qui disparaît un peu, quoi, tu vois, qui s'évanouit.
Parlez-nous un peu de la nouvelle lavée du silicium sur la domotique qui accompagne cet essai et qui est une petite pépite digne d'un épisode de Black Mirror et qui d'ailleurs mérite à elle seule l'achat de l'essai. Comment vous avez travaillé cette nouvelle? D'ailleurs, on a eu Mathias Echenet sur le podcast qui nous avait dit en off de l'émission, tu verras, là, Alain s'est fait mal sur l'essai, enfin sur la nouvelle, elle est super, elle est très bonne. Je suis assez d'accord. Vous avez bossé comment sur cette nouvelle ?
Je me suis fait mal, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en réalité, quand je suis arrivé sur cette fiction, ça faisait très longtemps que je n'avais pas écrit de fiction. Quasiment depuis Les Furtifs, parce que j'ai monté mon lieu en montagne, cette fameuse zone d'expérimentation collective. Ça m'a bouffé tout mon temps. Et j'avais fait des articles, j'avais fait un peu d'essais, justement. Et là, j'avais fait cette chronique. Mais l'essai, ce n'est pas la fiction. Ce n'est pas le même athlétisme affectif, quoi. C'est vraiment... autant, ça demande beaucoup d'efforts, évidemment. Un essai, ça demande beaucoup de réflexion. Mais tu es sur des enjeux conceptuels, rationnels, etc. Tu n'engages pas l'émotion, tu n'engages pas ta biographie, tu n'engages pas ta mémoire aussi, tu n'engages pas tes affects. Donc, cet athlétisme affectif dont parle vraiment avec justesse Antonin Artaud et qu'il applique aux comédiens, moi, je l'applique vraiment à l'écrivain. C'est cette plongée qui fait la qualité ou pas d'un texte. Et j'étais comme un gars qui n'avait pas couru un kilomètre depuis longtemps, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. J'avais une structure, j'avais vraiment cette idée d'un blackout, qui est un thème d'ailleurs très classique dans la science-fiction, mais de dire, bon, imaginons qu'on vous coupe l'électricité, qu'est-ce que ça produit, surtout dans une ville comme San Francisco. Mais je voulais vraiment un huis clos. J'étais parti sur cette idée du huis clos, d'une IA domotique, qui bien sûr maîtrise les ouvertures, donc les volets roulants, les fenêtres et les portes, et qui, lors d'un blackout, va séparer finalement les trois habitants de l'appart, donc le père, la mère et la petite fille, chacun dans un lieu différent avec des portes en titane renforcées qui sont infranchissables. Et l'IA a été paramétrée pour ne pas ouvrir les portes et a été paramétrée par le propriétaire lui-même, le père, qui s'est dit qu'en cas de crise, en cas de panique et de blackout, il serait trop irrationnel et trop affectif pour pouvoir gérer ces trucs-là. Donc il a décidé de déléguer son pouvoir à l'IA pour gérer les situations en cas de panique et... sauf qu'il se trouve coupé de sa fille et de sa femme. Et donc, ça part là-dessus, en fait, dans ce blackout de San Francisco. Et puis après, ça part en vrille. Ouais.
Un excellent huis clos, très bonne surprise. Ça faisait plaisir, d'ailleurs, de vous relire faire de la fiction, puisque c'est vrai que le premier podcast qu'on avait fait ensemble, c'était « Que faire après Les Furtifs ?». Vous n'êtes pas du tout ennuyé durant ces 4 années. Un petit mot avant de passer à votre autre actualité. Vous avez mis une note sur la féminisation des pluriels. Pourquoi c'était important pour vous de mettre d'ailleurs une petite note sur ça? J'ai cru comprendre que vous avez été un peu entre guillemets éveillé à ces questions.
Ouais, bah bon, déjà c'est moi, je vis avec une féministe depuis 20 ans maintenant. Je suis très proche de la communauté, de la Volte, des auteurs voltés qui sont, je prends par exemple Sabrina Calvo qui a fait une transition d'homme à femme. Je prends Léo Henry qui est un vraiment un féministe très intense, j'ai envie de dire. Je prends Stéphane Beauverger, enfin il y a beaucoup d'auteurs, je prends l'ICAM, etc., je prends Luvan, tous les auteurs de la Volte sont très engagés sur ces dimensions-là. Moi, je suis peut-être le plus cool là-dessus, venant vraiment d'une famille patriarcale, et j'ai fait un long chemin avec ce père patriarche jusqu'à une perception féministe plus fine et plus engagée. Mais surtout, je voulais adresser cet enjeu très clair de la grammaire française, qui effectivement invisibilise dans les pluriels le féminin, puisque tous nos pluriels sont de fait masculins depuis 4 siècles. Et que, pour répondre à ça, on a le point médian, on a le fameux délire actuel. Moi, je dis délire parce que je trouve que c'est pas une bonne solution de dire auteurice, instituteurice, de dire tiens, les gens sont valeureux, tu vas dire valeureuse parce que c'est à la fois valeureux et valeureuse en même temps, et que du coup tu veux pas mettre de point médian, donc tu et du coup moi je trouve que c'est pas du tout ergonomique comme approche, parce que tu rajoutes une syllabe ou deux syllabes, la langue est faite pour être raccourcie, toute l'évolution de la langue elle est vers une espèce d'ergonomie langagière, donc je trouve qu'on va à l'envers de ce que la langue doit porter. Et du coup je me suis dit finalement le plus simple c'est d'assumer le fait qu'on féminise les pluriels une chronique sur deux, et ça donne ce trouble de se dire, mais bon Dieu, qu'à des moments j'ai dit nous autres européennes, même moi ça m'a perturbé quand je l'ai fait, j'étais là à dire nous autres européennes, nous pensons, je disais mais moi je suis pas une européenne, quoi, je suis un européen, tu vois, et j'arrivais même pas à assumer pour moi-même que derrière européenne, il y avait européen, et derrière étudiante, il y a étudiant, et que Bah les filles, les autres, je pense à Luban, je pense à Catherine Dufour. Elles, ça fait 40 ans qu'elles écrivent en mettant nous autres Européens et en se disant merde, je suis quand même européenne et je suis derrière le truc, quoi, tu vois. Et c'était super intéressant de tout d'un coup basculer mentalement et de me dire bon Dieu, en fait, ça me fait chier, quoi, moi, d'être sous-européenne, tu vois. Et bien sûr, je me suis forcé à le faire et je me suis forcé à garder ce trou parce que eh ben, je pense que dans l'expérience de lecture, au début, ça va te perturber. J'ai parlé un peu aux lecteurs, etc., comment ça faisait, tu vois, aux lecteurs et lectrices, du coup. Et ils disent, on est perturbé. Au début, ça paraît un peu artificiel. Puis après, ben, on s'habitue qu'étudiante, derrière, ben, on sait bien qu'il y a des étudiants, tu vois. Mais enfin, on sort de cette espèce de naturalisation du masculin comme étant la domination, quoi. Donc le combat, il a lieu dans la langue, il a lieu dans la grammaire. On sait que la langue est un support politique et un enjeu politique majeur. Donc voilà, et c'est normal qu'il ait lieu sur les pronoms aussi, sur plein de dimensions. Le parler queer est hallucinant aussi, puisqu'il met des elegances, il met des X partout et il est très créatif. On a l'ICAM qui a fait dans Visite un boulot incroyable sur une tentative d'être dans le neutre, en tout cas de pas être dans la binarité féminin-masculin de la langue, et ça donne une langue complètement inventive et nouvelle. Et je crois que tous ces travaux-là sont précieux. Voilà, moi je fais un truc très modeste, c'est juste pour dire attention, il faut qu'on soit conscient de ça, quoi, et qu'on essaye de nous écrivains progressistes d'amener notre petite pierre, quoi. Et je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Et pourquoi pas les points médians ou d'autres signes de ponctuation, pourquoi pas auteuris. Moi, je ne suis pas convaincu par cette solution, mais ce n'est pas pour ça que je crache dessus en disant vous avez tort, quoi.
Vous sentez qu'il faut plus s'engager en ce moment, Alain Damasio? On a parlé un peu de politique tout à l'heure, mais ouais. Peut-être en ce moment, on voit que la situation se tend socialement. On voit qu'il y a bientôt les européennes. On voit qu'il y a une colère, on reparle d'économie en ce moment aussi, on a l'impression des fois de revenir à 10 ans où il fallait faire des réformes. Je sais qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre que vous avez été plutôt proche des écolos à une certaine époque.
Ouais, je suis toujours à la croisée, comme pas mal de gens, des luttes anticapitalistes et des luttes écologiques, quoi. Je pense que il y a vraiment une convergence très forte maintenant là-dessus. On comprend que l'enjeu est fondamental. Moi, ce que je vois, alors si je prends la situation vraiment strictement française, un peu franchouillarde, mais qui est la même en Europe et aux États-Unis sur plein d'axes, c'est la montée vraiment de l'extrême droite. C'est-à-dire que là, il y a un retour en force. L'extrême droite a été décomplexée. On lui a ouvert la porte. Le macronisme restera dans l'histoire comme la grande ouverture du tapis rouge pour l'extrême droite. Ça, c'est ça que moi je retiens du macronisme, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment ouvert la porte à tous les niveaux pour que l'extrême droite puisse atteindre le pouvoir, arriver au pouvoir. Ils ont fait un gros travail de manipulation médiatique, de reprise de la presse, par Bolloré, par beaucoup de choses. La presse s'est droitisée énormément en France. Il y a quelques bastions qui résistent, mais c'est compliqué. L'édition a été rachetée massivement aussi et elle commence à être mise au pas. Donc on est sur des lignes des lignes de combat qui sont importantes. Il faut se mobiliser. Là, j'ai vu que ça y est, le monde de la culture se mobilise sur l'antifascisme qui vient, en tout cas sur le fascisme qui vient et qui bouge. Il y a tous les lignes de front géopolitiques, évidemment, sur Gaza, sur la guerre en Ukraine, sur maintenant les attaques iraniennes, etc. Donc on est sur quand même une espèce de frémissement guerrier qui est quand même un peu inquiétant, même si moi je rentre pas du tout dans l'espèce d'hystérie panique de ça y est, la guerre mondiale va arriver, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais par contre, l'espèce de droitisation, d'extrême droitisation de nos sociétés, le rapport aux migrants qui devient hystérique, quoi, c'est-à-dire qu'on considère ça comme une menace absolue alors que c'est une pure richesse, quoi, la migration, et ça l'a toujours été dans l'histoire humaine. Je trouve qu'on a un rapport qui est dramatique à ça, à l'étranger. Donc, toutes ces choses-là, ça implique que toi, auteur, bah, tu te positionnes. Comme se positionner, là, on parlait sur le genre, sur la grammaire, sur les abus faits aux femmes. On est en train de révéler absolument tous les abus dans tous les domaines artistiques qu'il y a eu là-dessus. Et c'est très bien que ça soit fait et qu'on construit une génération émancipée par rapport à ça, quoi, et qui ne sera plus... qui sera plus victimisé, quoi, tu vois. Donc moi je suis un mâle dominant aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans.
Vous avez du pouvoir, vous êtes connu.
Je suis un boomer, j'ai du pouvoir, j'ai du prestige, j'ai tout ce que tu veux. Donc je suis dans tous les lignes de domination. J'essaie de rester conscient de ça et d'utiliser cette position privilégiée pour pour aider toutes les forces progressistes partout où elles sont, que ce soit voilà, les queers, les féministes, les palestiniens, et tous ceux qui se battent contre ce système-là, quoi, voilà, les zadistes, les militants écolos, et de proposer aussi des modes de vie qui soient enviables. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait, c'est modeste, mais cette zone d'expérimentation qu'on fait dans les Alpes-de-Haute-Provence, elle est là pour essayer de définir ou de dessiner un petit peu le monde qu'on voudrait voir advenir, pas être tout le temps contre, pas être tout le temps arc-bouté contre des forces politiques qui sont en train de nous, encore une fois, de nous massacrer, mais de dire, bah, regardez, il y a des façons de vivre qui sont enviables et chouettes, quoi. Donc, j'essaie de mêler tout ça de front, c'est compliqué, je me fais bouffer beaucoup, ben, bien sûr, par le collectif, parce que ça prend énormément de temps, et par cette zone, et par ces ateliers, et par ces stages, et puis ce maraîchage, et puis par ce monde, enfin, voilà. Mais je me dis, c'est marrant, parce que plus t'as de pouvoir, j'ai envie de dire, parce que le pouvoir t'est donné par l'audience, par le bassin d'audience, par le fait que tu sois lu, par le fait que des centaines de milliers de personnes qui te lisent, plus t'es obligé de réfléchir à l'importance de ce que tu fais et te dire quel est l'endroit. J'ai plein de propositions de partout, dans le visuel, dans la série télé, dans le jeu vidéo, j'ai plein de possibilités, mais de se dire, j'ai plein de propositions politiques aussi, de se dire où c'est que je me mets, moi, c'est où que moi, Alain Damasio, je peux apporter le plus de choses positives, voilà, par mes capacités imaginatives, par ma capacité de réflexion. Là, par exemple, ce livre était important pour moi parce que ça faisait 30 ans que je réfléchissais sur la technologie, que j'avais fait des conférences, des articles, j'en ai parlé dans mes livres. Mais c'était le moment de cristalliser cette pensée-là et de la poser, parce que c'est un enjeu quotidien pour plein de gens, et de dire, ben, comment on construit un art de vivre avec la technologie demain qui fasse que on arrête d'être dans ces boucles d'auto-addiction, d'auto-aliénation, et que ça soit un vrai vecteur d'émancipation, que la techno soit un vrai vecteur d'émancipation, ce que c'est beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, donc c'était important que je fasse ce boulot. Voilà,
On va finir avec une autre actualité que vous avez. Il n'y a pas que la Vallée du Silicium qui sort. Vous avez rejoint un collectif d'écrivains autour de la franchise Cross the Age, qui mêle jeu de cartes et roman. Le premier épisode vient de sortir aux éditions Bragelon. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce projet? Je pense qu'on fera prochainement, ou peut-être pour la saison prochaine, un podcast autour de Cross the Age avec l'équipe d'écrivains. Ça pourrait être sympa.
Ça serait génial.
Parlez-nous, à peu près, hantez-nous un peu ça.
Ouais, ce qui est génial, c'est que c'est un... C'est parti d'un jeu de cartes digital, tu vois, fondé sur un deck de 4x4 sur lequel tu fais des duels. Mais c'est Michel Agou qui est le boss de ce projet-là, a eu une intuition très forte dès le début, je trouve. C'est qu'il a dit, ces jeux de cartes, c'est bien joli, mais si tu prends Pokémon, si tu prends Magic, etc., ça a duré longtemps parce qu'il y avait un univers. Parce que derrière, il y avait plus qu'un univers, il y avait des valeurs aussi. Et lui, il tenait vraiment à ça et il tient à ça. C'est-à-dire que de créer un univers qui porte aussi des valeurs, qui s'adresse au monde, qui ait une spiritualité, qui ait des enjeux politiques, qui soit intelligent et qui ne soit pas un énième divertissement, j'ai envie de dire, qui améliore rien, quoi, ou en tout cas qui te fasse passer du temps, mais pas... Et du coup, il avait engagé un écrivain qui s'appelle Arnaud Dolène et qui avait écrit un premier tome d'une saga. Il voulait faire... une saga de 7 tomes, c'était l'idée dans le projet. Et parallèlement, il y avait un métavers, il y a le jeu de cartes, il y avait tout le lore qui se... Et il a fait appel à moi. Au début, je n'avais pas le temps. Je lui ai dit, ça fait partie des projets où je disais, non, mais je n'ai pas le temps de m'y mettre. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'homme, Samy, j'ai beaucoup aimé Arnaud, l'écrivain, beaucoup aimé son intelligence, sa capacité à apprendre, sa capacité à vouloir apprendre. Et ils m'ont demandé d'analyser le tome 1 et de voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, j'ai dit... Ok, on y va. Et je leur dis très vite, il faut une équipe. Si on veut bien faire les choses et construire un bel univers, il faut une équipe de 6. Et j'ai été chercher Norbert Majernian, avec qui j'avais beaucoup travaillé sur beaucoup de projets, qui est un vrai créateur d'univers, un vrai world builder, comme on dit maintenant, et qui est un très bon écrivain aussi de science-fiction, qui a beaucoup écrit, notamment à La Vol, des nouvelles, et puis aussi chez De Noël. J'ai été chercher Fabrice Capizzano, qui est un écrivain de ce qu'on appelle littérature blanche, qui est surtout quelqu'un d'une grande puissance émotionnelle dans ce qu'il écrit, et aussi un extraordinaire écrivain de scènes de cul, comme on le dit vulgairement, c'est-à-dire qu'il a une capacité à restituer la sensualité, le charnel de façon magnifique. J'étais chercher Héloïse Brésillon, qui a 28 ans, qui est une féministe, qui est une poétesse, qui a créé ce podcast Mange tes mots, et cette scène de slam à Paris, qui fait un boulot magnifique pour réunir les gens autour de la poésie. Et puis qui fait sa thèse aujourd'hui sur la science-fiction d'ailleurs et l'oralité de la science-fiction. Et puis, on a été chercher aussi Pablo Servigne, ce qui était plus inattendu, mais c'est un ami qui m'a aidé aussi sur la zone d'expérimentation. Et Pablo pour les utopies, pour la création de mondes alternatifs, pour ce qu'il fait autour de la collapso et de la solidarité, parce que c'est quelqu'un qui dit les crises arrivent, mais il ne faut pas réagir comme survivaliste, il faut réagir par l'entraide, la solidarité. Il travaille très concrètement à créer un réseau des tempêtes. Bref, ces quatre personnes-là étaient pour moi géniales pour monter ça, quoi. Et donc, moi, j'étais un peu en position de mentor. Et je suis en position, je lis le premier jet de Arnaud, c'est moi qui répartis un peu le travail, distribue le travail en disant cette scène il faudrait la reprendre, là la trame elle est passée, tissée, etc. Et Arnaud fait le premier et le dernier jet. Donc il a le first cut et le final cut, ce qui permet d'avoir une cohérence dans le truc, mais c'est un vrai roman collectif du coup, et l'univers est créé collectivement. Et comme c'est des gens qui sont des amis et qu'il y a une ambiance assez géniale dedans, je pense qu'on fait un très beau boulot, voilà, et on alimente en plus tout, évidemment, tous les illustrateurs, tous les graphistes. On fait le débrief de cartes et on construit lentement tout le lore. Et donc, c'est un monde... oui, peut-être tu peux parler du monde en deux secondes, mais c'était un monde cross the ages, quoi. Justement, c'était un monde qui croisait la science-fiction et la fantasy. C'était comme ça que ça avait été bâti, de façon très archétypale, hein. C'était... cité état ultra connecté, Mantris, donc une des premières civilisations, ça se passe sur la même planète. Mais Mantris, c'est la cité état ultra connecté, et là on retrouve les grands, on a l'impression d'être dans Hyperion, c'est-à-dire que les grands vecteurs de la science-fiction tels qu'on les aime, t'as les robotiques, t'as les génétiques, tu as les cyber, tu as les medtechs qui vraiment se créent des drogues et utilisent la médecine pour s'améliorer, et t'as évidemment les IA. Et la fameuse Noria qui dirige un peu dans une sorte de démocratie liquide scandinave ce monde-là. Donc on suit là, le personnage de l'ordonnateur qui est un peu le président de ce monde et comment il va se déployer. Et de l'autre côté, on a Arcanthe qui est vraiment le monde des magies. Et là, sept grandes magies élémentaires, évidemment l'eau, la terre, le feu et la nature et l'ombre et la lumière, etc. Mais on a voulu refonder vraiment toute la magie et on a tout refondé sur l'idée de la vibration. Le core concept est autour de la vibration. Et avec des personnages, alors c'est là l'influence d'Héloïse a été assez forte et c'était super d'avoir, j'ai envie de dire, une nouvelle génération très féministe puisqu'on a des personnages féminins très forts et dominants même dans la saga avec une reine, une Malka, qui est la reine du royaume d'Arcanthe qui va avoir une trajectoire extrêmement importante, qui est un peu le personnage principal. Mais on s'est éclaté, et je crois que c'est vraiment solide à la fois stylistiquement, à la fois sur les structures. Après, c'est une saga, moi c'est la première fois que j'attaquais une saga. Donc une saga, t'as des parties d'exposition qui sont importantes, il faut poser tous les personnages, il faut avoir du coffre, il faut avoir de l'ampleur, donc il faut construire énormément de personnages, il faut un lore qui soit très profond derrière, parce qu'entre Mantris et évidemment Arcanthe, il y a une zone au milieu qui s'appelle le Rift, qui est une zone de perturbation gravitationnelle, qui est une zone d'hybridation, qui est une zone assez folle. Et il faut développer tout ça. Voilà. Donc, on est là-dessus. Et donc, moi, c'était génial parce que moi, j'aime évidemment faire des œuvres personnelles, individuelles, comme je viens de faire sur Valley du Silicium, comme j'ai fait sur Les Furtifs ou La Horde. C'est-à-dire construire un monde tout seul et le porter tout seul. Mais plus ça va, plus je fais des projets collectifs aussi. J'en ai besoin. Je suis quelqu'un de très social. Et ça m'apprend beaucoup aussi de bosser avec les autres. J'apprends plein de choses. Donc, voilà, on s'est éclaté. Et on espère que ça va être bien reçu et que ça va se déployer, quoi.
Et bah, ce sera le mot de la fin. De toute façon, on fera un podcast. On a prévu de faire quelque chose ensemble autour de Quasi Age, peut-être à la rentrée pour la sortie du volume 2 en novembre prochain aux éditions Bragelonne. On vous remercie, Alain Damasio, d'être revenu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, qu'on n'avait pas discuté.
Ça me fait plaisir d'être là, moi.
Ouais, c'était très chouette. De toute façon, on sera amené à se revoir. On rappelle que vous venez de sortir La Vallée du Silicium aux éditions du Seuil. Un essai qu'on recommande évidemment de lire. De toute façon, avec vous, c'est comme avec Denis Villeneuve, hein. On a tellement travaillé autour de votre travail, Alain, que bon, tout ce que vous faites, on apprécie. Mais on recommande évidemment aux auditeurs de se faire leur propre avis et évidemment aussi de nous envoyer leur avis, de débattre. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je sais qu'Alain est toujours ouvert aussi au débat.
Bien sûr.
Et on recommande évidemment de lire La Vallée du Silicium. Alain, il faut qu'on fasse aussi un jour une émission spéciale L'Ordre du Contrevent quand même. C'est les 20 ans cette année.
Ah, c'est les 20 ans, il faut qu'on y aille, quoi. Ouais, on est obligé.
Il faut qu'on fasse un truc spécial.
Moi, j'adore l'idée que les 20 ans de la Vol, c'est aussi les 20 ans de la Horde, puisqu'on a ouvert évidemment la maison d'édition avec la Horde. Et c'est incroyable d'ouvrir une maison d'édition avec le livre qui continue à la faire vivre en partie, puisque ce livre est incroyable, il continue à se vendre beaucoup et surtout à inspirer beaucoup d'œuvres dérivées, quoi, de spectacles vivants. Là, on travaille sur un spectacle potentiel sur la philharmonie à partir de la danse et de la musique avec Ron autour de la Horde. Donc voilà, c'est génial pour moi de voir que ça donne envie à d'autres créateurs de créer. Puis comme on laisse les droits ouverts, on permet à tout le monde de s'en emparer, ça permet à beaucoup de bourgeonnement de fleurir, donc ça c'est chouette. Ouais.
Très bien, bah écoutez, merci Alain Damasio et puis à très bientôt dans C'est plus que de la SF.